Matière à penser, Patrick Boucheron.
Bonsoir, deuxième émission de cette semaine consacrée aux archives, à la présence des archives, ce qu'elles font, ce qu'elles nous font au présent. C'est pas seulement du passé, on l'a compris hier avec Carlo Ginzburg. On va mieux le comprendre encore aujourd'hui avec Yann Potin. Yann Potin est chargé d'études documentaires aux Archives nationales. Il est historien aussi, il est maître de conférences associé en histoire du droit à l'université de Paris 13. Il est historien et archiviste, et aussi historien d'une certaine manière de ce couple étrange entre l'histoire et les archives. Il va nous expliquer tout ça. Bonsoir Yann Potin.
Bonsoir Patrick Boucheron.
Oui, je parlais de couple étrange parce que d'une certaine manière, au fond, entre l'historien et l'archiviste, on peut décider de s'engueuler, on peut décider de se mépriser, mais d'une certaine manière, on peut pas se passer l'un de l'autre. Vous avez, d'une certaine manière, souhaité être l'un et l'autre, l'un puis l'autre. Comment ça s'est passé?
Oui, alors c'est un parcours qui n'était pas prédéterminé, en effet, qui continue d'ailleurs à s'inventer, si j'ose dire, et à se bricoler. En effet, il m'est apparu pendant ma formation d'historien que, et notamment d'historien médiéviste, que les archives passaient pour quelque chose qu'elle n'était pas forcément. Alors ça peut paraître un peu abstrait, c'est-à-dire que on polarisait sur les archives beaucoup de choses autour des sources, des difficultés, mais aussi des fascinations, et que finalement les archives avaient une histoire, et que cette histoire des archives en tant que source principale de l'histoire, donc là on est déjà dans une espèce de retournement
de circularité, oui,
sur soi, était peut-être difficile, pas très connu, voire en fait dissimulé, non pas pour des raisons de secret, même s'il y a beaucoup de fabrique du secret aussi à travers les archives, mais que ça pouvait être une autre façon d'avoir un rapport à l'histoire que de la penser à travers la construction de ces sources que sont particulièrement, ces sources privilégiées que sont les archives. Alors avec un grand guillemets, si j'ose dire, puisqu'en effet, derrière ce terme, et c'est un peu ce qui va nous occuper, Patrick Boucheron, je pense, c'est la question, qu'est-ce que sont les archives? Et finalement, on est souvent bien en peine.
De définir ce que c'est.
De définir ce que c'est.
Au-delà de leur valeur d'usage, parce que d'une certaine manière, ce que vous appeliez cette fausse évidence de l'archive, c'est elle est toujours déjà là, elle s'est déposée, elle tombe du ciel comme une aubaine, et les historiennes et les historiens vont s'en emparer.
Voilà.
Et ne pas voir que, en réalité, il y a déjà eu une histoire de la mise en archive de l'histoire. Et c'est ce retournement, en fait, du miroir que vous avez voulu faire.
Que je tente, en fait, en évoluant en tant que détaché d'ailleurs de l'enseignement secondaire, enfin de dans le service des Archives nationales, qui est un établissement biséculaire, mais qui vient d'être refondé il y a 5 ans par son transfert partiel à Pierrefitte-sur-Seine dans un nouveau bâtiment en 2012-2013. Et donc finalement ça s'est imposé en quelque façon à moi que ce transfert, ce vaste déménagement, les archives étaient dans le centre de Paris, les Archives nationales, et là on parle surtout du cas de la France, mais évidemment avec toujours cette envie de regarder ailleurs, mais en tout cas pour le cas de la France. Et une fois de plus, les archives nationales sont bien loin d'être toutes les archives, c'est bon. Mais en tout cas, les archives nationales ont connu ces 15 dernières années une situation de mutation. Elles étaient installées dans le Marais depuis le début du 19e siècle. Et c'était très tentant, et ça continue à l'être, d'aller voir à l'intérieur en me glissant quasiment, presque, non pas dans une boîte, mais entre les boîtes, pour voir un petit peu, finalement, comment ça se passait, finalement, comment les archives s'accumulent, comment les archives se collectent, comment les archives sont utilisées, perçues, avec beaucoup de malentendus, notamment sur ce qu'on garde, ce qu'on ne garde pas, et disons-le tout de suite, la première découverte qu'on fait, c'est l'importance de la destruction
Comme... Et ça, c'est important aujourd'hui parce que justement, on parle des archives essentielles, on s'effraie de leur destruction, mais en réalité, dans la constitution des archives publiques, puisque c'est de ça dont on va parler d'abord, c'est quoi? C'est 95% qu'on détruit?
Oui, c'est pas mesurable, mais c'est de certainement de cet ordre-là. Et cette destruction, elle s'opère à plusieurs échelles et à différentes étapes, et tout au long d'une chaîne presque invisible et qu'on est obligé de reconstituer, qui part de tous les bureaux, de tous nos bureaux, de tous vos bureaux, que vous soyez agent public ou non. Mais là, si on se concentre en tout cas pour les archives qui vont être conservées en rapport avec l'État. Et donc, en effet, cette destruction, ce tri, il s'établit de telle façon et de manière tellement disséminée qu'il est très difficile de faire la part objective entre le volontaire et l'involontaire, et que justement c'est ça qui va nous intéresser fortement aujourd'hui comme hier, c'est de savoir en fait au fond ce que vous parliez de ce qui arrive sur la table que du lecteur dans un service d'archives ou dans un grenier finalement quand il tombe dessus par hasard ou quand il remonte une file de recherche au fond c'est de savoir qu'est-ce qu'on a sous les yeux en sachant qu'évidemment le premier effet est un effet en général brutal de surgissement du passé qui nous enveloppe en général dans une fascination qui est tout à fait je dirais salutaire et motrice, parce qu'en général, elle participe de l'envie de comprendre. Elle est vraiment connectée à cette espèce de libido du savoir historien ou du savoir du généalogiste, enfin de toute personne qui, à un moment donné, a affaire aux archives. Et en effet, quand on tente de remonter les fils, de reconstituer les différentes phases de transfert, de classement, de sélection, je le disais, volontaire, involontaire, on s'aperçoit que c'est une forêt dans laquelle...
C'est un monde qui se lève.
Voilà, c'est un monde qui se lève. Un monde où il y a beaucoup de fantômes. Des fantômes qu'on identifie assez clairement par des traces indirectes, d'autres qu'on peut supposer, et c'est toujours cette effectivement hein, cette réflexion terrible de au fond comment peut-on savoir ce qu'on peut parvenir à dire de ce qui reste quand on ne sait pas exactement tout ce qui a été, en sachant que les archives ont cette propriété avec le temps de leur transmission. Et plus on s'éloigne évidemment de leur source de production, de se substituer à la réalité, par simple effet mécanique, puisque l'oubli de ce qui a pu exister ou ce qui a pu peut-être exister finit par s'effacer, et que, eh bien, finalement, on fait avec ce qu'on a.
Donc c'est de tout ça dont on doit parler, Yann Potin, hein, de la présence de l'archive, de sa présence immédiate, presque aveuglante, et aussi de la mise au présent, au fond, de cette capacité de tri d'une société à garder, à conserver, puisqu'un archiviste, ça détruit beaucoup plus que ça ne conserve, et qu'au total, ce qui reste, par exemple, aux Archives nationales depuis 1945, c'est quoi? C'est 200 kilomètres de...
Oui,
de,
ce qui...
C'est-à-dire une masse inerte qui n'est presque pas lue, au fond, parce que les historiens, ils n'en voient qu'une infime partie.
Bien sûr.
De l'infime partie du passé qui a été conservée.
Exactement. Alors, en effet, même si ça peut paraître énorme, puisque l'unité de compte, en effet, dans le monde des archives, en France comme à peu près partout dans le monde aujourd'hui, ce n'est pas une unité de valeur intellectuelle directe ou disons de nombre de pages ou de c'est véritablement une unité d'occupation de l'espace, puisque c'est finalement le lieu où les archives finalement se conserve, qui va au total assurer leur transformation véritablement en statut d'archive. Donc on parle de mètres linéaires, de kilomètres linéaires. Effectivement, pour disons le XXe siècle, aux archives nationales qui sont loin de conserver toutes les archives de l'État central, puisque il existe des services d'archives pour des très grands ministères qui ont leur propre autonomie, la Défense, les Affaires étrangères, le ministère de l'Économie et des Finances. Tous les autres, à peu près, sont représentés aux archives nationales. Mais il faut ajouter à ça tous les établissements publics qui, la plupart, ont leur propre service d'archives. Donc, les archives nationales représentent peut-être 30-40% de la surface de l'État central, je ne parle pas évidemment des collectivités territoriales, etc. Et une fois de plus, on ne parle que des archives publiques administratives, en sachant que dans ces archives-là, il y a beaucoup plus que de l'administration. Hein. Elles sont administratives par leur processus de création, mais par définition, il y a beaucoup plus de contenu que ce que on attribue habituellement à l'administration. Bref. Ce qui est certain, c'est que cette part, donc que vous désignez, Patrick Boucheron, de 100 km aujourd'hui pour le XXe siècle, par exemple pour un État comme la France, elle est à la fois presque, je dirais, écrasante. Oui. Et en effet, aucun historien non seulement ne les lira toutes, mais même si on met bout à bout les lectures, en sachant que les lectures varient avec le temps, et c'est là où les archives sont elles-mêmes en permanence relues, de toute façon, cette masse qui pourtant ne représente sans doute, comme je le disais, que la réduction d'un certain nombre de filtres en partie conscients, et la plupart du temps, non pas inconscients, mais en tout cas incontrôlables, filtres de ce qui a pu exister, eh bien, elle fabrique quand même, elle participe directement d'une représentation globale, dont l'écriture de l'histoire est un des aiguillons massifs, mais pas seulement, puisqu'on peut dire que d'une certaine façon, par exemple, dans les archives publiques, il y a beaucoup de dossiers sériels, nominatifs, de dossiers de naturalisation, de dossiers de demande de subvention, de dossiers qui peuvent certes faire l'objet d'une exploitation quantitative, statistique, mais qui vont aussi faire l'objet d'une exploitation, dirons-nous, biographique ou généalogique.
Par exemple, vous aviez consacré il y a 2 ans un entretien intitulé « Sur la place des archives aujourd'hui » à la revue Le Débat. Vous y remarquiez, Yann Potin, que d'une certaine manière, les archives ne parlent plus aujourd'hui du moment de leur numérisation de documents, mais de données. Donc, en réalité, ce que l'État récolte, ce sont des données, et que ce qui a fait le pain, sinon quotidien, du moins régulier, des historiens de la famille, c'est-à-dire les archives notariées. Aujourd'hui, elles sont complètement dématérialisées, et qu'il y a quelque part cette magnifique invention du fichier central des dispositions de dernière volonté.
Oui.
Alors là, on est dans un autre monde.
Eh bien, on est dans un monde, en effet, où, en apparence, le temps s'écrase sur lui-même, puisque le monde numérique, et évidemment, c'est le défi de tous les archivistes aujourd'hui dans les administrations, puisqu'en fait, ce qu'il faut aussi préciser, c'est que derrière le terme archiviste, pardon pour cet excursus, Patrick Boucheron, mais il est nécessaire, on a dit, les archives, c'est difficile à définir, puisqu'en fonction de là où on se place dans leur chaîne de production, traditionnellement, on parle d'archives courantes jusqu'aux archives définitives ou historiques. Et après, on peut segmenter à l'infini, d'où cette notion très vague d'archives intermédiaires qui a, pour dire des archives qui sont encore utiles à l'administration et pas tout à fait passées de l'autre côté de la barrière. Mais alors, le terme archiviste, lui aussi, désigne toute une palette de métiers qui vont de l'administration et de la logistique en passant par l'analyse scientifique des documentations. Et en effet, si on en vient maintenant à la question numérique, il y a ce bain dans lequel nous sommes depuis maintenant, au fond, une trentaine d'années, mais effectivement, peut-être depuis une vingtaine d'années, de superposition entre le document et la donnée, superposition de la donnée produite numériquement, nativement numériquement, mais surtout cette superposition ou cette confusion entre l'enregistrement et l'archivage, qu'on vit tous les jours.
Tous les jours.
Tout le monde peut faire cette expérience sur son ordinateur, puisque quand on enregistre un fichier, on a l'impression de le sauvegarder, donc. Et très vite, on le met souvent d'ailleurs sous le vocabulaire d'archive. Bon, mais en fait, on ne fait que l'enregistrer. Et donc, il y a cette espèce de, justement, et c'est peut-être le moment pour ressaisir ou saisir ce temps de mise en archive qui fut souvent non seulement très long, mais très complexe, alors qu'aujourd'hui, il semble être, si j'ose dire, disparu, puisqu'il semble se superposer. Or, on sait qu'il est superposé, certes, sur des puces, sur des serveurs, mais dans le temps de projection d'une société, pour l'instant, nous n'avons pas le recul tout à fait de ce qu'est le monde numérique dans le temps. Il n'est pas du tout certain que des pans entiers de la mémoire traditionnelle des sociétés administratives soit disparaissent, soit tombent sous le coup d'une protection juridique quelconque. Hein. Bon, l'exemple le plus fort, c'est cette tendance qu'il y a à anonymiser au maximum une grande partie des données produites par les entreprises ou les États, ne serait-ce que parce que précisément ce temps froissé entre l'enregistrement et l'archivage pose des problèmes d'exploitation immédiate. On sait très bien, tout le monde, c'est des exemples qu'on voit tous les jours sur les mails, comment on moissonne, ou plutôt on siphonne, des fichiers qui peuvent permettre ensuite de faire de profiler des acheteurs, etc., etc. Il y a un marché de la donnée numérique, oui, qui est là rampant. Donc du coup, il est évident, et le mouvement a déjà commencé, qu'on va avoir tendance à archiver en oubliant encore. On l'a toujours fait, puisque on parlait depuis tout à l'heure de destruction. Cette destruction est une façon finalement indirecte de la provoquer, de provoquer cet oubli. Et donc archiver, c'est souvent participer, commencer à accepter d'oublier. Mais en revanche, aujourd'hui, dans le monde numérique, il y a cette idée, par exemple, je donne un exemple tout simple, que le genre, dans un fichier nominatif, ou bien sûr, des données de base de l'individu, peuvent, parce qu'elles sont au présent immédiatement archivées ou enregistrées, ça, hein, peuvent être menaçantes ou, disons, risquées de tomber sous des exploitations massives. Et donc, on va s'arranger pour qu'elle ne se conserve pas. Et à ce moment-là, en effet, ça veut dire que les archives seront, si j'ose dire, à la fois, non pas forcément strictement anonymes, mais sans, presque sans visage. Et donc là, le processus traditionnel qui a fondé en grande partie la discipline historienne au XIXe siècle, c'est-à-dire ce processus de traverser la barrière du temps en passant par les indices et les traces, justement, individuelles, et accomplir ce travail de résurrection, pour parler comme Michelet, par les archives du temps, eh bien, il va être forcément extrêmement délicat, puisqu'en effet, on ne pourra plus, vous parliez, par exemple, de l'encodage, ne serait-ce que pour anonymer des bases de données comme l'enregistrement notarial des testaments, eh bien, ce qui aujourd'hui se présente, par exemple, au minutier central des notaires de Paris, aux Archives nationales, comme une collection de registres sur une étagère, avec des testaments bien alignés, vont être, en fait, comme autant de données
dans un fichier central.
Oui, et qui ne sont pas, si j'ose dire, lisibles sans des clés de protection. Et donc, forcément, là, c'est sûr que là, la question informatique est assez complexe.
Ça, ce monde-là, Yann Potin, Jacques Derrida l'avait d'une certaine manière pressenti ou déjà décrit dans Le Mal d'archives, hein, oui, en 1994. C'est un texte dont je sais que, au fond, vous le considérez et que vous ne cessez de le reprendre aussi parce que, d'une certaine manière, dans cette histoire, vous disiez que archiver, c'est se préparer à oublier. Tout est contre-intuitif, au fond. Mmh. Par exemple, la numérisation, chacun, encore une fois, peut en faire l'expérience. Et c'est ça qui est intéressant. Vous êtes aussi un archiviste, je dirais, de la vie savante ou de la vie tout court. On va en parler. Vous avez travaillé sur Françoise Dolto, vous avez travaillé sur plein de choses. On va progressivement compléter le portrait. Mais restons sur cette profession d'archiviste. Chacun peut faire l'expérience, par exemple, que la numérisation, paradoxalement, produit une inflation de papier, parce qu'un seul mail peut être imprimé dans plusieurs administrations qui vont l'archiver, et on aura, dans plusieurs dépôts, le même document.
Alors, c'est toujours cette tension, en effet, Patrick Boucheron, entre, on va dire, le pouvoir d'enregistrement, le pouvoir d'impression, en l'occurrence, et d'ailleurs, vous parliez de Jacques Derrida et de son Mal d'archives, qui est ce petit livre issu d'une conférence, elle est sous-titrée Une impression freudienne. Donc, il y a aussi quelque chose qui a là à voir, évidemment, avec aussi la question de l'analyse au sens collectif. Mais, et donc, le pouvoir d'enregistrement, le pouvoir d'impression, et puis le pouvoir de transmission-sélection. On va dire que les archives sont pouvoir d'impression qu'on peut aussi appeler pouvoir d'inscription, hein, pour évoquer aussi peut-être le travail de Roger Chartier. Donc pouvoir, je me répète, d'enregistrement, pouvoir d'inscription, impression et pouvoir de transmission. Au fond, les archives sont suspendues dans l'articulation permanente de ces trois éléments, et quelque part, on est aujourd'hui grâce à l'instrument numérique, ou dans une démultiplication de ces trois possibilités qui menace en partie le pouvoir de contrôle de ces possibilités. Donc, quelque part, tout le monde peut enregistrer, tout le monde peut imprimer, et c'est un petit peu la même inflation que celle qu'on constate très banalement depuis une quinzaine d'années sur la circulation de l'information. Et on a bien vu que la surproduction de l'information à la fois la rend son contrôle impossible, sur la toile, sur le tweet, tout ce qu'on veut, sur les réseaux sociaux, et en même temps, la banalise, ou au contraire, lui fait perdre une croyance. Donc, oui. Quand François Hartog dit qu'il y a une crise dans la croyance en l'histoire, il y a aussi peut-être une crise dans la croyance des archives, du fait de leur pouvoir, de discrimination, en quelque sorte du temps entre le passé et le présent. Pour être plus concret, parce que c'est un peu peut-être tout ça, c'est des... Mais en fait, c'est très concret. En effet, vous l'avez dit, en rappelant cet exemple, par exemple, l'invention de l'imprimante personnelle, même si aujourd'hui elle est peut-être restreinte par les injonctions écologiques à ne pas, en effet, trop gaspiller du papier, en fait, elle rend, non pas impossible, mais quasiment infinie, la discrimination du travail de l'archiviste pour discriminer l'original et la copie. Donc, par exemple,
voilà une chose. L'original, il n'y a plus de copie. Or, en tant qu'étudiant en histoire, oui. On considérait que c'était la base de notre métier que d'une de sorte... discriminer l'original voilà. De l'authentique.
Ne serait-ce que parce que parfois, voyez, on prend un exemple tout bête, les archives sont nécessairement construites. Et là, je prends par exemple plutôt l'exemple des archives personnelles, mais c'est le cas aussi pour les archives de n'importe quelle institution ou service, fondamentalement sur une relation, c'est-à-dire on produit des choses parce qu'on en reçoit, c'est-à-dire des lettres, des courriers, etc., ou des mails. Et donc, tout est un jeu d'interface qui veut dire que tout le monde a des archives sur les personnes avec qui on était en relation. Donc, il y a un effet de miroir. Vous avez les lettres que vous conservez, c'est plutôt pas vos lettres, si vous continuez encore toujours à écrire à la main, mais...
Celles que vous avez reçues.
Celles que vous avez reçues. Alors le mail, précisément, typiquement, conserve les deux. Mais on sait très bien qui a fait l'exercice de classer sa boîte mail personnelle, si tant est qu'on continue à le faire, ou qu'on laisse, si j'ose dire, le Gmail le faire ou ne pas le faire dans une accumulation aveugle. Voilà, l'enregistrement semble être infini. Et or, on sait que brutalement, pouf, la boîte... se ferme et on perd d'un coup sa mémoire numérique, etc., etc. Donc dans cette inflation, il est évident que l'archive se dissout littéralement, et c'est aussi pour ça, je me répète peut-être, mais que c'est peut-être pourquoi beaucoup d'historiens, beaucoup de chercheurs et de chercheuses prennent de plus en plus la mesure de ce qui était l'ancienne équation de la fabrique des archives, où au contraire, là, intervenaient des filtres, des agents intermédiaires.
Tout est affaire de pouvoir, avez-vous dit, Yann Potin, et vous êtes aussi un historien des lieux de pouvoir, et en particulier, les lieux des archives sont des lieux de pouvoir, mais d'un pouvoir singulier par rapport à ces archives. L'État français a un rapport quand même ambigu, d'une certaine manière, on peut dire que c'est son trésor, mais on a dit aussi que c'était une masse inerte, dont il ne fait pas grand-chose, en somme.
Tout à fait.
Tout à fait frappant de voir les efforts de l'administration pour produire une documentation qu'elle utilise assez peu. Alors, reprenons à l'origine de votre vocation historienne, Yann Potin. Vous êtes d'abord un historien du trésor. Au début, est le trésor. C'est d'une certaine manière le trésor médiéval, le trésor des chartes. C'est d'une certaine manière, les origines sacrées de la mise en archive de la monarchie française.
Tout à fait. Et en effet, c'est vrai que mon premier travail... portait sur la question de la thésaurisation des objets, des livres, bibliothèque de Charles V, lointaine origine de la Bibliothèque nationale, dans le cadre en tout cas national français. Et puis, justement, j'avais un peu pris au mot cette idée que les archives nationales a revendiqué d'être finalement la fille lointaine du trésor des chartes. Et je trouvais ça étonnant parce que je me rendais compte que le mot trésor là avait une sorte de double sens. Et le trésor des chartes, c'est effectivement une collection de titres dans lesquels on a la plupart des grands documents très connus de l'histoire médiévale, la bulle de canonisation de Saint-Louis, le testament de tous les rois, les procès des Templiers, bref. Et en fait, cette cette collection un petit peu sacralisée, d'autant plus sacralisée qu'elle était conservée à la Sainte-Chapelle, donc près des reliques de la Passion du Christ, a servi justement de motif pendant longtemps d'une royauté qui à la fois pouvait en quelque sorte sacraliser son trésor et sa mémoire antique, tout en finalement la maîtrisant, puisque c'était, ça tenait dans deux pièces. Et en fait, jusqu'à la Révolution, l'État n'a pas d'autre point central d'archivage, pour employer un terme qui est anachronique pour l'époque, mais que ce trésor des chartes. Alors qu'il y a déjà partout, bien entendu, des papiers publics dans les administrations, et que ça va être un des grands problèmes de la Révolution, de savoir quoi en faire, et si les effacer permet aussi d'effacer le régime qui va avec. Et cette question, évidemment, elle se pose, je dirais presque, au présent, à chaque rupture politique, qu'elle soit violente, dictature,
eh bien justement, on va en parler. On va en parler de la Révolution, mais
plus
peut-être...
lente, comme un changement de cabinet, par exemple.
On va en parler, mais d'abord, si vous voulez bien, on écoute un peu de musique. Vous nous expliquerez après qu'est-ce qui vous a motivé dans ce choix musical.
Matière à penser, Patrick Boucheron.
Toujours en compagnie de Yann Potin, archiviste, historien, et qui est venu accompagné de Patti Smith.
Alors en fait, c'est une reprise, c'est un jeu d'archives, justement, on peut le dire, puisque cette chanson est une chanson des Rolling Stones, Gimme Shelter, une chanson effectivement de 1969, donc il y a tout juste 50 ans, sur cet album Let It Bleed, qui lui-même d'ailleurs était aussi un jeu de clin d'œil par rapport aux Beatles, l'album Let It Be. Gimme Shelter, pourquoi ? Parce que, au fond, d'abord, il y a cette idée de reprise, qui est si décisive dans la création, et aujourd'hui, d'ailleurs, une des modalités de cette omniprésence ou cette présence des archives, c'est de voir à quel point elles sont présentes dans la création contemporaine.
En littérature,
en art. Que ce soit sous la forme du document historique ou que ce soit sous la forme du document égotique personnel, en art, on peut presque plus en parler, puisque d'une certaine façon, on ne peut plus parler que de ça, puisque d'une certaine façon, dans la création contemporaine où la performance, ce jeu avec le temps est si présente, la question de l'archive de la performance est la projection de la création elle-même. C'est-à-dire comme si l'archive de l'œuvre contribuait à la précéder, ce qui évidemment est une perspective forcément intéressante.
Vous avez d'ailleurs à ce sujet dirigé avec Paul-Louis Rémy et Clotilde Rouillet un livre, Yann Potin, Archives en actes, arts plastiques, danse, performance, qui pose cette question. Vous avez aussi fait, toujours en 2018, dirigé un livre sur Augustin Thierry, l'histoire pour mémoire, presse universitaire de Rennes, sur Françoise Dolto, également veuve de guerre à 7 ans. Ça donne quand même l'ampleur de votre intérêt pour les rapports entre histoire et archives. Et puis, puisqu'on parlait de musique, vous avez aussi travaillé avec Nicolas Frise, justement, oui, sur la mise en son, ou plutôt en silence, des archives. Vous pouvez nous raconter ça, Yann Potin?
Oui, alors ça, c'est vrai que cet inventaire à la Prévert...
Ah ben, je peux continuer. Il y en a bien d'autres, des livres. Vous parlez aussi, vous écrivez sur la préhistoire,
Non,
on n'en parle pas. D'accord.
Non, mais parce que, en fait, la difficulté, c'est comme l'histoire comparée, c'est-à-dire, les archives, c'est des situations qui, justement, semblent être enfermées dans leur utilisation, historienne, administrative, ou comme ça. Or, quand on les compare terme à terme, quand on compare les situations, c'est ce que j'essaie de faire par petites touches, comme un patchwork, en effet, apparaissent, des choses apparaissent, pas forcément des choses structurales, mais des choses, disons, des analogies dans ces processus d'articulation entre construction de l'oubli par la mémoire, ou l'inverse, etc., etc. Et en fait, évidemment, on peut faire varier comme ça le prisme. Et donc, en effet, pour repartir de la question des archives en acte, c'est-à-dire penser les archives dans la création contemporaine, j'ai eu une expérience qui a été assez troublante avec Nicolas Frise. Enfin, j'étais pas le seul, on était très nombreux, puisqu'en effet Nicolas Frise, compositeur, créateur, est venu en résidence aux Archives nationales pendant plus d'un an, en 2013-2014, j'ai plus les dates en tête tout à fait. Puis ensuite, il a mis en son tout le bâtiment, ce nouveau bâtiment des archives, sous la forme
Perfit. Depuis la création de Perfit en 2013.
Hein. Voilà, c'est ça. Et en plus, l'histoire s'est invitée, puisque le concert qui devait durer trois représentations était précisément le 12-13 novembre 2015. Donc, finalement, ça, voilà, l'histoire s'est invitée, mais c'est un détail. Et effectivement, Nicolas Frise a lui essayé de renverser en quelque sorte, de prendre le lieu des archives comme lieu de création sonore, précisément en essayant de montrer à quel point le silence des salles de lecture, des galeries, des magasins, ponctué maintenant par des portes automatiques ou des bruits de badges, était en tension, et on lisait des textes notamment de Michelet, où on aurait pu lire aussi du Harlet Farge, Le goût de l'archive, avec les voix contenues dans les documents. Vous, c'est déjà une métaphore, puisqu'en effet, les textes ne sont souvent, non pas des voix directes, mais déjà filtrées par la procédure ou par le témoignage, bien qu'il y ait aussi parfois des interjections, en quelque sorte, dans les archives. On sait très bien que cette fantomisation ou cette présence des archives est tout le temps, revient toujours.
Alors justement, parlons de cette mise en présence, des archives et de la voix. Vous parliez d'Arlette Farge, elle était avec nous le mois dernier pour parler du peuple, et évidemment on se souvient parce que, en tant qu'ancien étudiant en histoire, c'est ça qui nous a appelé aussi vers cette discipline. Le goût de l'archive, ça commence comme ça, on voit une historienne qui ouvre un carton, qui ouvre une liasse, qui voit qui entend les voix se lever et qui se dit « je suis la première à voir ça ». Or, dites-vous, là, il y a aussi des fantômes qui se lèvent parce que, entre l'homme ou la femme du XVIIIe siècle qui a écrit cette lettre, par exemple, ce billet, et nous qui la voyons aujourd'hui, eh bien, justement, il y a eu la mise en archive, l'histoire de cette mise en archive.
Très lente.
Très lente. Et c'est cette histoire-là que vous menez, Yann Potin.
C'est un peu ça. Même si, évidemment, le texte d'Arlette Farge est un texte magnifique, très, très écrit. Et je pense qu'il a un rôle encore aujourd'hui. Il date de 1989. Ça fait 30 ans. On peut le saluer, d'ailleurs. Il a un rôle très, très, initiatique. Mais en effet, quelque part, il ménage justement une sorte de gommage, pourrait-on dire, enfin, on écrase en quelque sorte tous ces filtres qui amène la trace en archives, certes, et il contribue à une fois de plus confondre les deux dans un effet de réel, faut bien l'appeler, qui est là aussi moteur dans la démarche de l'histoire, dans l'envie de faire, d'avoir ce goût pour l'histoire. Mais et précisément, reprenons l'exemple de la liasse qui arrive sur la table, cet exemple qui nous occupe depuis le début, qui arrive et qui semble s'ouvrir pour la première fois, y compris par son odeur, par sa texture, par Arlette Fache parle de la froideur même du parchemin, etc. Précisément, elle semble être une épave exhumée de l'oubli, or elle est exactement, presque pourrait-on dire, l'inverse, c'est-à-dire c'est une épave tellement construite selon des filtres qu'il faut redécouvrir et qu'on n'a pas toujours les moyens de redécouvrir. Et c'est pour ça que c'est-à-dire par exemple pourquoi très souvent on conserve des choses qui vont avoir une grande valeur historique pour des raisons qui n'ont strictement rien à voir avec la valeur historique qu'on va leur imputer plusieurs décennies après. Hein, c'est-à-dire, par exemple, on conserve la plupart des archives d'abord pour attester des droits. Mais des droits pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Et puis, ces archives, en se conservant pendant déjà un temps suffisamment long, permettent de détruire les autres, si j'ose dire. Hein. Et c'est là où on tombe dans un processus d'oubli déjà fantastique. Mais il va y avoir une sorte comme ça de transfuge peu à peu de sens, de translation dans le temps du différé de la transmission.
Et c'est pourquoi, Yann Potin, vous vous méfiez de ceux qui veulent poétiser l'archive. Vous cherchez plutôt une politique des archives, même une prose, en fait, des archives, quitte à être un peu prosaïque d'ailleurs, puisque vous faites l'histoire, au fond, très politique, très administrative, oui. De cette mise en archive de l'histoire. Vous aimez beaucoup Augustin Thierry, vous aimez beaucoup Jules Michelet, mais vous citez aussi parfois Yves Perrotin, qui était un archiviste, qui disait « la recherche historique est un sous-produit de l'administration ». Alors là, on a l'impression de dégringoler de trois étages, c'est beaucoup plus prosaïque, mais ça ouvre une possibilité en fait de recherche historique, parce que au fond, dans votre travail sur la mise en archive au trésor des chartes, dans votre travail sur la mise en archive de la loi révolutionnaire, dans tout votre travail, Yann Potin, sur les archives nationales, bah, vous ne faites que suivre ce filon. Oui. La recherche historique est un sous-produit de l'administration.
Je vous remercie beaucoup de citer cette phrase, parce que c'est vrai que c'est une phrase publiée dans un article assez séminal d'ailleurs de 1961 d'Yves Perrotin, qui était un très grand archiviste, et par ailleurs qui s'est engagé assez jeune dans le maquis du Vercors. Et effectivement, parce qu'elle est provocatrice, bien entendu. Et c'est une façon aussi de tout d'un coup changer la focale et de dire, mais attendez, au fond, toutes ces choses qui sont aujourd'hui présentées avec des gants blancs, etc., etc. D'abord, mais ça on le dit depuis le début de notre conversation, quelle est leur représentativité matérielle par rapport à tout ce qui aurait pu exister? Et là, c'est la construction aussi de la valeur économique, non pas des archives publiques qui tentent parfois désespérément de se tenir hors du marché, mais pour les archives privées, on a des ventes régulièrement qui prouvent que voilà, la spéculation peut venir très très vite, et notamment cette grande spéculation qui a eu lieu avec l'affaire Aristophile, etc. Donc à la fois il y a ce caractère un peu brutal de, au fond, tout ça n'est en effet qu'une sorte de dérivé lointain d'une activité dont le cœur reste le contrôle de l'information par le pouvoir, et inversement, d'une certaine façon, le fait que les archives sont des parmi les équipements du pouvoir, pour parler aussi un peu comme Michel Foucault et les recherches du CERFI, ces équipements du pouvoir qui en fait sont presque invisibles. Et c'est vrai que par rapport aux prisons, par rapport à beaucoup de choses très 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 visibles, les archives semblent être presque invisibles ou anodines, alors qu'elles participent véritablement, mais dans un temps qui n'est pas le nôtre, d'une certaine façon, de la manière dont une société finalement se marche en se tournant le dos en permanence. Et ce qui permet, et c'est salutaire d'ailleurs, parce que ça fait du bien, après tout, de ne pas regarder en arrière, mais Et de temps en temps se retourne brutalement. Et c'est ça, d'une certaine façon.
C'est ça, les archives en révolution, par exemple, voilà, vous l'avez montré.
Voilà, c'est-à-dire que la révolution a été un goulet d'étranglement nécessaire, mais finalement, on a détruit beaucoup moins qu'on a pensé. Mais on n'arrivera jamais à mesurer exactement, même si, par contre, la figure de de l'oubli, de la destruction de la table rase révolutionnaire est devenue en parallèle un geste qui semble lui-même être un acte de prise de pouvoir, alors qu'en fait, la Révolution a créé, par exemple, les archives nationales, a sauvegardé les papiers de la Bastille comme l'Ancien Régime ne les aurait jamais sauvés, précisément, non pas pour Michel Foucault écrive Le désordre des familles avec Arlette Farge, pour filer nos personnages, mais précisément parce qu'elles étaient la preuve de l'infamie. Donc, comment la preuve de l'infamie, ou plutôt de l'injustice du régime de la monarchie absolue, devient ensuite une façon de faire parler la voix elle-même refoulée, en quelque sorte, des familles ou de la vie des hommes et femmes, toujours pour rappeler Foucault.
Et pour parler de Michelet, justement, là, à plusieurs reprise évoquée ou annoncée. Bah, lui, c'est un homme de la Révolution française. Lui, c'est justement un homme qui fut historien et archiviste. Il a été envoûté, d'une certaine manière, par les archives. Et il écrit dans le deuxième volume de son Histoire de France, en 1833, « Quoique les provinces refusent de laisser réunir leurs archives, quoique même plusieurs ministères continuent de garder les leurs, l'encombrement finira par les décider à se dessaisir. Nous vaincrons, car nous sommes la mort, nous en avons l'attraction puissante, toute révolution se fait à notre profit, il nous suffit d'attendre, nous recevons tôt ou tard les vaincus et les vainqueurs. » Et donc là, c'est comment vous ressentez ça, Yann Potin? C'est-à-dire cette attirance, cette gravitation vers, c'est quoi? C'est mortifère? Les archives, ou
alors,
c'est
on en revient à notre point de départ de et on termine par là peut-être. C'est-à-dire en fait que les archives, au fond, n'ont jamais été synonymes de passé et de mort, même si elles ont pris toute l'apparence du mort. Hein, elles ont justement cette beauté du mort, mais peut-être cette laideur et cette peur de la mort, parce qu'elles sont commandées. Michelet le dit parfaitement. Par la mort, c'est-à-dire que même quand les archives ne sont pas versées, même quand les archives sont cachées, elles ressurgissent, certes, en général pas complètes, mais elles sont toujours une trace qui revient. Et en effet, la force du rapport entre histoire et archives tel que pensé par Michelet, c'est précisément cette puissance de faire ressurgir dans le présent des voix du passé, et c'est justement l'inverse de la mort que nous dit Michelet.
Ces papiers, ces parchemins, laissés là depuis longtemps, ne demandaient pas mieux que de revenir au jour. Ces papiers, ce ne sont pas des papiers, mais des vies d'hommes, de provinces, de peuples. C'est la suite, effectivement,
du texte.
Merci Yann Potin.
Merci Patrick Boucheron.
Matière à penser, Yann Potin, Manu Couturier, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Lino Lima, Anne-Pascale Desvignes, Patrick Boucheron. Demain, nous poursuivons sur la présence des archives en compagnie d'Anne Simonin, qui est historienne entre droit et littérature et praticienne des archives. Bonne soirée.